Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Juste un droit. Hey!
Les bourreaux derrière les barreaux, et la cour plutôt que les coups. Le 29 octobre, les 11 groupes de travail du Grenelle des violences conjugales ont rendu une soixantaine de propositions à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec un triple objectif: mieux prévenir les violences au sein du couple, mieux protéger la victime et mieux punir les auteurs. Car la France n'échappe pas au fléau des violences conjugales, loin de là. Généralement, quand on organise un Grenelle sur un sujet, c'est même qu'il y a une grosse anguille sous roche. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Plus généralement, 219 000 femmes sont victimes chaque année de violences physiques ou sexuelles infligées par leur ancien ou actuel partenaire. Et dans les 3/4 des cas, l'acte n'est pas isolé, il s'agit de violences répétées. Alors, à l'heure où vous écouterez cet épisode, il est plus que probable que le gouvernement aura dévoilé son plan de bataille sur le sujet, mais si nous avons choisi d'enregistrer en décalé, c'est pour une raison bien particulière, ou un invité bien particulier en l'occurrence. Mathieu Palin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez réalisé pour France Culture et son émission Les Pieds sur Terre, un reportage audio en 6 épisodes sur le sujet des hommes violents. C'est d'ailleurs le titre de cette série, qui sera diffusée en ligne sur le site de France Culture et toutes les applications de podcast le 21 novembre. Cet enregistrement est décidément celui des premières, puisque nous accueillons pour la première fois un procureur au micro de Justin Droit. Merci à Éric Corbeau, procureur de la République de Pontoise, d'ouvrir la voie. Éric Corbeau, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Enfin, on est plus sur une troisième que sur une première, mais le plaisir et le sourire sont toujours là. J'ai préparé cette émission aux côtés de Caroline Politi, journaliste au service police-justice de 20 minutes. Bonjour Caroline.
Bonjour Romain.
Ok, bon, maintenant on a posé un petit peu le décor afin que l'on comprenne bien de quoi on parle. Que recouvre le terme de violence conjugale, afin qu'on rentre dans le vif du sujet? Éric Corbeau, est-ce que vous pouvez également nous dire quelle est la spécificité des violences conjugales par rapport à d'autres types de crimes et de délits?
Les violences conjugales, ce sont des violences qui sont d'abord prévues dans le code pénal, comme étant aggravées par le fait qu'elles sont commises par le conjoint ou l'ex-conjoint, sur le conjoint, sur l'ex-conjoint, paxé ou concubin. Et donc, c'est une aggravation à la fois de l'infraction et des pénalités qui sont encourues lorsque l'on commet ces violences. Ça, c'est l'aspect juridique des choses, l'aspect pénal des choses. Ce qu'on voit actuellement et dans votre émission et ce podcast en est l'illustration, c'est qu'il y a une sensibilisation à cette problématique qui n'est pas nouvelle, puisque les lois ont évolué depuis une vingtaine d'années pour renforcer la répression de ces infractions-là. Mais on sent qu'il y a cette sensibilité, une prise de conscience générale de ce phénomène, avec ce compteur qui tous les jours vient s'incrémenter de ce qu'on appelle des féminicides. Et aujourd'hui encore, ce compteur a augmenté. Donc il y a cette prise en compte au plus haut niveau de cette problématique des violences conjugales au sens large, qui intègre aussi essentiellement la problématique des violences faites aux femmes, dans une idée un peu d'analyse et d'approche systémique. Il y a des violences qui sont commises au sein de la plupart du temps du couple, mais aussi avec la problématique des ex-partenaires, essentiellement sur des femmes, dans une volonté de faire mal ou de tuer, parce que la victime est une femme. Et c'est là où se pose la problématique de ces violences telles qu'on l'évoque aujourd'hui.
Okay. Ce qui frappe souvent dans ces affaires, c'est le phénomène de répétition. Alors, toujours selon les chiffres du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre femmes et hommes, sur les 219 femmes qui sont victimes chaque année de violences conjugales, on estime qu'environ 3 sur 4 ont subi des violences répétées et que 8 sur 10 subissent également des menaces ou des violences psychologiques. Vous, Mathieu Palin, est-ce que dans votre série de reportages, ce sont des choses que vous avez constatées? On a tendance un peu à dire qu'un homme qui va lever la main sur sa femme aura tendance à recommencer, même s'il s'excuse. Est-ce que vous avez vu ces répétitions?
Oui, bien sûr, je les ai vues parce que le travail que j'ai fait pour France Culture a duré pendant pas mal de mois avec des hommes qui étaient déjà condamnés et qui sortaient pour la plupart de prison. En général, quand on va en prison pour des violences conjugales, c'est rarement pour la première fois, c'est souvent parce qu'il y a eu plusieurs plaintes et qu'on a déjà été condamné une première fois, qu'on a essayé d'aménager la peine parce qu'on avait un boulot ou quoi, et que finalement, les faits ont été rapportés une nouvelle fois et du coup, on a été condamné une nouvelle fois. Donc c'est sûr qu'il y a une espèce de récurrence qui fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Et les hommes que j'ai rencontrés, moi, n'arrivent pas à en sortir, principalement parce qu'ils ont du mal à sortir du déni, déjà, à sortir de cette idée de « en fait, c'est moi qui ai un problème, c'est pas ma femme qui me rend dingue à chaque fois, c'est pas elle qui me pousse à bout parce qu'elle est folle, hystérique, on met tous les adjectifs qu'on veut, mais c'est moi qui ai un problème de violence et qui ne sait pas gérer ma frustration quand je me retrouve en colère et qui, du coup, a la réaction systématique de frapper plutôt que de discuter, comme ça arrive dans tous les couples, quoi, dans lesquels on peut s'embrouiller, ben, dans ce cas-là, on discute. » Mais cette idée de se sortir justement de cette récurrence-là, de faits, de coups et du coup de condamnation, elle vient en général aussi de la difficulté à sortir de son propre déni.
On revient sur les victimes. Comment on juge de la gravité d'une situation et comment on prend éventuellement les menaces et comment on évalue le danger auquel est exposée une victime, sachant que des fois, il arrive que ce soit, entre guillemets, que quelques interruptions temporaires de travail, quelques ITT. Et est-ce que à partir de ces quelques éléments, on arrive vraiment à savoir dans quel danger et potentiellement la victime?
Je crois que vraiment que dans ces affaires-là, on a la nécessité et l'obligation d'offrir une réponse systématique. C'est vraiment au niveau de la politique pénale qu'il faut que cela s'inscrive, c'est-à-dire qu'il faut inscrire son action dans la volonté d'agir systématiquement, d'agir à différents niveaux et avec différentes, là aussi, actions. Comme vient de le dire Mathieu Pallain, tout acte n'entraîne pas obligatoirement la prison à vie. On est dans un système de droit où il y a la prise en compte de la gravité des faits, il y a la prise en compte de la personnalité des uns, des autres, de l'auteur, de la victime. Il y a la prise en compte des circonstances. Il y a une individualisation de la peine. Donc, il y a toujours, effectivement, une gradation dans la réponse pénale qui peut passer par aussi des questions, comme l'évoquait Mathieu Pallain, la question de sensibilisation aux phénomènes de violence. On a tous développé dans les parquets des stages de sensibilisation pour les affaires les plus faibles en gravité. Mais là, bien sûr, quel est le niveau de gravité? C'est une vraie question. On n'est pas dans les cœurs et les âmes. On prend les faits tels qu'ils sont objectivement relatés par les procédures, par les procès-verbaux et par les enquêtes qui sont menées. Donc, on a des stages de sensibilisation pour les faits les moins graves. Et puis ensuite, la première réponse pénale qui va être le passage devant le tribunal avec une peine avec sursis ou un sursis mis à l'épreuve. Et puis plus loin, bien sûr, sur les faits les plus graves, des peines d'emprisonnement ferme. Il y a cette gradation dans la réponse pénale qui va de soi. C'est notre système judiciaire qui vaut ça. Donc la gravité, elle s'apprécie effectivement avec la posture des uns des autres, l'incapacité de travail. Mais comment apprécier la volonté de l'auteur des faits? C'est là où se trouve toute la difficulté d'approche de ces questions-là. Et surtout, comment analyser les capacités ou non à récidiver? C'est là où se pose toute cette question. Et il faut travailler très fondamentalement et très en amont. Et là, ce n'est pas le ressort de la justice, mais le ressort de la société en général, sur les questions du rapport homme-femme et de la place de l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est des fondamentaux qu'il faut réinvestir dès le départ.
C'est des réquisitions plus compliquées que d'autres, celles des violences conjugales à faire?
Non, ce n'est pas des réquisitions plus compliquées, parce qu'on pourrait parler de la même chose sur les violences sexuelles aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'idée qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand même. Et comment ne pas se poser ces questions? C'est-à-dire quand on va requérir parce qu'il y a eu un fait de gravité, entre guillemets, faible, et que l'on va requérir un stage de sensibilisation, parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde en prison non plus, est-ce qu'on ne prend pas le risque qu'il y ait, une semaine après, 15 jours après, une récidive mortelle? Ce risque-là, la société vit avec, et la justice vit avec ce risque-là, dans sa réponse pénale, est-elle adaptée? Il faut travailler sur les personnalités, sur l'information, sur la formation, sur la pédagogie, pour essayer là aussi de reposer un petit peu les fondamentaux de la vie en société.
Au printemps, Nicole Belloubet, donc la ministre de la Justice, a fait passer une circulaire dans toutes les juridictions pour demander une meilleure protection des victimes en apportant, selon ses mots, une réponse ferme et réactive. Est-ce qu'il y a, selon vous, un changement de perception dans les violences conjugales ces dernières années et peut-être une meilleure perception de ce qu'on va appeler des signaux faibles? Par exemple, est-ce qu'une femme qui retire une plainte, c'est déjà une alerte en soi?
Oui, c'est pas nouveau. Je suis procureur depuis suffisamment longtemps pour pouvoir vous indiquer que ces problématiques-là, elles ont fait l'objet à la fois d'évolutions législatives et de circulaires au cours des années précédentes qui déjà insistaient sur l'importance du traitement spécifique de ces infractions-là. Bien sûr, il y a une volonté politique forte et affirmée, et vous évoquiez effectivement cette circulaire du printemps dernier qui sollicitait encore de la part des procureurs une plus grande réactivité. Cette réactivité, elle existe déjà. Il faut que l'on travaille aussi avec tous les acteurs de la chaîne, des fonctionnaires de police ou des gendarmes qui sont formés à la prise de plainte. Il faut travailler avec des unités médico-judiciaires, c'est-à-dire des médecins qui vont examiner les victimes sur un plan physique et peut-être des psychologues sur un plan psychologique pour pouvoir traduire aussi la réalité du préjudice subi. Travailler avec des intervenants sociaux en commissariat, en gendarmerie qui vont pouvoir accompagner ces victimes, notamment, et votre exemple était intéressant, sur une victime qui ne veut pas déposer plainte, parce que ça arrive, parfois vous avez des victimes qui viennent pour obtenir une main courante, qui ne veulent pas déposer plainte. Ce que l'on fait par exemple dans le Val d'Oise, c'est que dans ces cas-là, systématiquement, c'est les instructions que j'ai données, elles doivent être prises en charge par une intervenante sociale en commissariat ou en gendarmerie qui va aller travailler avec ces victimes. Pourquoi vous ne voulez pas aller plus loin? Pourquoi vous ne voulez pas déposer plainte? Ou pourquoi vous retirez votre plainte? Pour essayer de les accompagner, de les faire accompagner par des associations d'aide aux victimes. Donc voilà, j'égrène comme ça tous les éléments de la chaîne qui doivent travailler ensemble. Et c'est peut-être ça l'idée aussi du Grenelle, de la réflexion actuelle, c'est de mettre tout le monde vraiment ensemble pour qu'on fonctionne mieux sur cette chaîne et qu'on ne perde pas, entre guillemets, des victimes sur le bord de la route avec les risques derrière, que l'on soit passé à côté d'un risque majeur.
Mathieu Palin, j'ai découvert dans votre podcast le chiffre de 96%. Donc c'est 96% des personnes condamnées pour faits de violence conjugale sont des hommes. Est-ce que, pendant vos reportages, vous avez décelé ou repéré un profil type de l'homme violent?
Au contraire, on peut repérer assez rapidement qu'il n'y a pas de profil type et que toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les catégories sociales sont représentées dans la figure de l'homme violent. Ce qui me fait, moi, dans le podcast, me poser la question de ma propre éducation. Et j'ai 31 ans, je pense avoir été élevé dans une famille assez égalitaire, progressiste, tout ce qu'on veut. Et quand on regarde les choses avec un peu de sang-froid, on remarque qu'en fait, j'ai été élevé à peu près comme tous les gamins de France, c'est-à-dire avec un schéma de garçon qui devient un homme plus tard, assez classique, et dans lequel finalement être un homme, c'est un homme invrai, c'est être viril, pas se faire marcher sur les pieds, être capable de s'énerver quand on vous pique une place dans la rue alors que vous êtes en train de l'attendre pour pouvoir vous garer, d'être capable de se battre si on vous demande de... ça c'est un peu les schémas classiques, et je me rends compte après avoir passé pas mal de temps avec ces hommes que l'évolution de notre société et le fait que cette figure de l'homme viril, je vais prendre un cliché, mais de l'homme à la Belmondo quoi, ou à la Lino Ventura, elle s'efface parce qu'elle n'est tout simplement pas vraie, et on est, nous, à avoir été éduqués comme ça, un peu perdus vis-à-vis de cette figure-là qui s'estompait. Ou est-ce que... Alors si c'est pas ça être un homme, qu'est-ce que c'est? Et ça, on se rend compte qu'en fait, c'est transclasse. Des gamins à avoir été élevés un peu comme moi, on doit être des centaines de milliers, je pense, voire des millions. Et donc, la violence ici, elle est vraiment liée aussi à ça. Parce que ça veut dire comment réagir à la frustration, comment réagir quand on est en colère. Et là, en général, la question de la violence, elle est présente. Donc ça touche aussi bien des classes sociales extrêmement paupérisées qu'en même temps des gens qui sont... directeur de banque. Moi, j'ai vu des mecs qui avaient été directeur de banque toute leur vie, qui étaient dans le stage à côté d'un Tunisien qui venait juste d'arriver de Tunisie, qui parlait pas très bien le français et puis qui bossait sur des chantiers. Donc c'est des catégories socio-professionnelles extrêmement différentes. En soi, quand on les regardait tous les deux, on pouvait se dire ils ont rien à voir ensemble, sauf qu'ils ont le même problème exactement. Je pense que c'est pas tellement là-dessus, sur les catégories socio-professionnelles qu'il faut regarder, mais plus sur les questions d'éducation, et là-dessus, on a beaucoup de points communs.
Éric Corbeau, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, j'ai pas tout à fait le même âge que Mathieu, mais je pense que effectivement, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question de milieu social. On a travaillé dans le Val d'Oise sur les féminicides qu'on a malheureusement eu à connaître au cours de l'année. Notre idée, ça a été de faire des monographies sur ces dossiers de meurtre ou de tentative de meurtre. Hein. Ça nous fait 6 dossiers là, qu'on a sortis sur l'année, qui ont eu lieu dans le Val d'Oise depuis l'année 2019, pour mieux détecter, mieux prévenir, voir un peu s'il y avait des similitudes. Enfin, il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'idée, réfléchir sur le pourquoi. Hein, réfléchir sur le pourquoi, comment ça arrive dans cette situation-là. Et on a constaté, alors là c'était que 6 dossiers, mais c'était 6 dossiers quand même marquants, hein, c'est des meurtres ou tentatives de meurtre, hein. On constate voilà, qu'il n'y a pas vraiment de règles sur l'origine sociale, y compris sur des faits qui sont commis en récidive ou pas, parce qu'on avait des faits où il n'y avait eu aucune plainte avant, hein, mais qui se sont conclus malheureusement par le plus grave. Question d'âge aussi, on a des choses qui sont commises par des jeunes qui ont 20 ans, et c'est je crois peut-être ce point commun, c'est que ça se passe toujours dans une relation d'homme à femme avec la plupart du temps, de la part de l'homme, l'impossibilité d'admettre la séparation, d'admettre la rupture. Et donc on est toujours dans cette posture-là, effectivement, comme le disait Mathieu. Quand on le voit à l'inverse, les homicides qui sont commis d'une femme sur un meurtre, c'est jamais parce que l'homme s'en va. C'est pour d'autres raisons. La plupart des faits de violence, les plus graves et notamment ce qu'on appelle les féminicides, sont commis lorsque la femme quitte ou a quitté l'homme. Donc on est bien dans quelque chose de systémique, c'est-à-dire que c'est bien, est-ce que ça rejoint ce que disait Mathieu, c'est effectivement dans une question de rapport de l'homme à femme.
Il y a un schéma.
C'est vrai que sur justement la question de la rupture, ça rejoint les chiffres du ministère de l'Intérieur qui publie chaque année un rapport sur les féminicides. Et dans le dernier, celui de 2018, on se rend compte qu'il y a pas mal de points communs qui ressortent dans tous ces crimes. Et notamment le fait que d'abord, la première cause de féminicide invoquée par les auteurs, c'est la rupture. Ensuite vient la dispute. Mais il y a cette idée, et on le constate également dans la qualification des infractions, qu'il n'y a pas forcément une préméditation dans les meurtres et dans les crimes sur conjoint, puisque quand on regarde sur les 121 féminicides qui ont été recensés l'an dernier, seulement 26 ont été qualifiés d'assassinat. Donc ça rejoint cette idée de la dispute qui est un déclencheur dans le passage à l'acte.
Dans le même rapport, on sait que sur les 121 femmes tuées en 2018, un tiers avait porté plainte ou déposé une main courante, c'est bien ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Mais un tiers seulement, hein, ça veut dire qu'on est là au fait le plus grave sans qu'il y ait eu de préalerte du système, pour faire très large. Et c'est là où on est un peu dans cette zone de flou. Et donc il faut qu'on travaille encore mieux sur justement l'analyse de ces cas, mais individuellement. Mmh. Voir pourquoi ceux-là ont échappé à notre vigilance ou à notre attention. Et ça, c'est important. Je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus.
Oui, Caroline.
Il y en a quand même un tiers qui ont porté plainte, parfois plusieurs fois. En mars dernier, il y a eu une affaire qui a été en Corse assez médiatisée, puisque c'était une jeune femme qui s'appelle Julie Douip qui avait porté plainte 5 fois et qui avait posé plusieurs mains courantes en l'espace de 6 mois avant d'être tuée par son ex-conjoint. L'idée, c'est pas de refaire le match après coup, c'est toujours plus facile de dire on aurait dû agir, on l'a pas fait. Mais c'est un tiers de plainte, ça veut dire que comment ces femmes sont passées sous les radars
Vous avez tout à fait raison, hein. Il faut retravailler là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut regarder et auto-évaluer cette problématique. Alors, un tiers qui avait déjà porté plainte, est-ce qu'il y avait déjà eu une réponse pénale? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il peut y avoir déjà eu une réponse pénale, ou pas. S'il n'y en a pas, il faut peut-être regarder pourquoi il n'y en a pas eu. Par exemple, là, nous, on a fait un travail sur les 6 premiers mois de l'année 2019, où on a pris les faits qu'on peut intituler violence conjugale, et on constate qu'il y en a un certain nombre qui ont été classés sans suite. Bon, ben, on les a fait tous ressortir pour voir pourquoi on les a classés sans suite. Il ne faut pas avoir peur de retravailler un peu sur son passé. Ben, je veux dire, il faut qu'on aille vers une amélioration du système, hein, pas qu'on dise que tout va bien, ma marquise, quoi. Donc, il faut travailler, étudier, réfléchir, analyser, auto-évaluer pour qu'on puisse progresser. Alors, il y a eu des évolutions qui sont faites, des inspections qui sont actuellement lancées, etc. Mais chacun, je crois, professionnel dans notre cœur de métier, là, on peut retravailler là-dessus. Il faut qu'on essaye de progresser. Vous avez raison.
Dans le premier épisode des Hommes violents, on a une femme jeune, hein, qui porte plainte sans qu'on sache trop quelles sont les suites données à cette plainte. Et à contrario, l'auteur présumé des faits porte lui aussi plainte contre elle. Est-ce qu'il n'y a pas un souci justement de ce côté-là? Comment vous avez analysé cet aspect-là du dépôt de plainte?
C'est le point de départ de la série, parce que moi c'est vrai que je ne suis pas du tout spécialiste ni des droits des femmes ni des violences faites aux femmes. Je suis journaliste, mais c'est un sujet sur lequel je ne m'étais pas penché. Et c'est en rencontrant cette jeune femme qui a exactement le même âge que moi, qui a 31 ans, et en écoutant son histoire, que je me suis dit qu'il doit y avoir quand même un problème, parce qu'elle raconte 45 minutes de coups et blessures. Elle avoue à son mec qu'elle l'a trompé, et exactement comme la situation que vous avez décrite tout à l'heure, lui refuse absolument l'idée même d'avoir pu être trompé, et sa réponse, au lieu de se dire qu'est-ce qui n'a pas été dans notre couple, à quel moment on s'est écarté l'un de l'autre, sa réponse à lui, c'est de la fracasser dans l'appartement pendant 45 minutes. Elle en sort vivante. Pendant 2 jours, elle est prostrée chez ses parents. C'est finalement sa mère qui pose un jour de congé pour l'amener porter plainte. À ce moment-là, les choses passent une deuxième étape. C'est que normalement, on devrait prendre sa plainte, la protéger, lui demander si elle a un endroit pour vivre loin de son conjoint, si elle est menacée, s'il la harcèle, quoi. Tout ce travail-là n'est pas fait, finalement. Elle est laissée de côté pendant des mois et des mois. Et un jour, on l'appelle en lui disant « Il faut une confrontation parce qu'en fait, votre ex-conjoint, en apprenant la plainte, a porté plainte contre vous aussi pour coup aussi. » Donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, le conjoint a de peur d'aller en prison parce que finalement, il se rend compte qu'il a fait une connerie. Se dit « Je vais l'attaquer elle aussi pour coup. » Et puis, comme il n'y a pas de preuves et qu'on n'était que tous les deux dans l'appartement, ça va passer comme ça. Et malheureusement, l'histoire de cette jeune femme, c'est que la justice, au lieu d'enquêter, se retrouve dans une situation de dire « un partout, balle au centre. » Je vais vous mettre tous les deux dans un stage de responsabilisation de la violence, et puis vous inquiétez pas, ce sera pas sur votre casier, donc c'est pas si grave, hein. Allez, bonne journée. Et ça se passe comme ça pour elle, et c'est le point d'entrée pour moi dans ces rouages de la justice en ce qui concerne les violences faites aux femmes, et notamment les violences conjugales. C'est toutes des questions qui ont déjà été évoquées depuis des années et des années, c'est-à-dire comment est prise la plainte, comment est reçue la jeune femme qui vient avec un œil au beurre noir pour expliquer que, avec toute la honte qu'elle peut avoir sur les épaules, que ce qui lui est arrivé par son mari, par son conjoint. Et parfois, c'est juste des détails comme ça qui permettent finalement que la plainte soit vraiment prise au sérieux. Et en ce qui concerne Cécile, parce que c'est son prénom, porter plainte l'a plus détruite qu'autre chose, presque. Parce que derrière, elle a eu des mois et des mois de culpabilisation, parce qu'au lieu d'avoir été reconnue comme victime, elle a été reconnue comme à moitié coupable, ou en tout cas coupable au même titre que son agresseur.
Il me semble que Nicole Belloubet a dit, donc la garde des Sceaux, que globalement tous les rouages du système de la prise de plainte à la justice devaient s'améliorer sur cette partie-là de l'écoute et du soutien et de l'orientation des victimes. Comment ça pourrait se concrétiser selon vous? Comment on peut améliorer cet aspect-là justement du suivi dès la prise en charge de la victime dans le commissariat?
Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Il faut d'abord des fonctionnaires et des gendarmes formés spécifiquement. Il n'y en a pas assez. Et puis il y a la masse du travail, hein, donc il faut peut-être là aussi définir des priorités. Il faut qu'il y ait des intervenants sociaux en commissariat ou en gendarmerie plus systématiquement. Actuellement, c'est des situations relativement fragiles, ils sont financés par des collectivités qui peuvent arrêter les financements. Ça, c'est une vraie question, hein, stabiliser et pérenniser ces choses-là. Renforcer aussi le rôle des associations d'aide aux victimes. Elles sont intéressantes et utiles parce qu'elles peuvent accompagner les victimes, notamment trouver des hébergements. Et on s'aperçoit qu'on a très peu encore de places d'hébergement, peut-être trop peu, hein, parce que c'est des questions de financement. Il faut ensuite aussi travailler avec, Mathieu évoquait tout à l'heure les constatations médicales. Il faut que là aussi l'accueil par les unités médico-judiciaires, c'est-à-dire les médecins légistes qui peuvent attester des ITT, soit plus rapide, plus réactif. L'idée peut-être de prendre les plaintes directement au niveau des hôpitaux, parce que ça évite là aussi que la victime ait à faire 36 déplacements, et c'est pas toujours simple. Tous ces éléments-là, c'est bien raccrocher tous les maillons de la chaîne pour que l'on travaille ensemble et qu'ensuite le parquet qui est saisi de l'affaire puisse prendre des décisions les plus éclairées possibles avec l'ensemble des éléments, et mettre en place aussi derrière les éléments de protection qui peuvent venir renforcer la mise en sécurité de la victime des violences conjugales. Les éléments de protection, ça va être l'ordonnance de protection, ça va être le téléphone grave danger, ou éventuellement à venir, le bracelet anti-rapprochement.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a un manque d'empathie ou un manque de considération pour la victime?
Non, je crois pas. Ça, c'est un lieu commun de dire ça, parce que quand on travaille régulièrement avec les policiers et les gendarmes, on peut pas dire ça, surtout que ça fait des années qu'on y réfléchit et à ces phénomènes et on y travaille. Après, il y a des problèmes de, il faut voir aussi les problèmes de, tout simplement, de masse, de quantité, de flux, de nombre de plaintes, etc., de gestion humaine. Moi, j'ai pas à dire s'il y a de l'empathie ou pas. Je pense que c'est pris en compte parce que, malheureusement, il y a énormément de plaintes qui sont déposées et des plaintes qui sont bien prises et des choses qui sont bien faites et des jugements qui sont rendus. Des gens qui sont condamnés, il y en a énormément. Mathieu en a rencontré, il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire que le système a fonctionné. Malheureusement, il y a peut-être, pour certains cas, le système a moins bien fonctionné. Là, il faut travailler dessus. Pourquoi il a moins bien fonctionné et pourquoi on a eu une récidive, pourquoi on a eu un échec, pourquoi on a eu une mise en danger de la victime.
Vous parliez tout à l'heure de l'arsenal, justement, à votre disposition pour protéger ces femmes victimes. Vous parliez du téléphone grave danger, juste pour expliquer. C'est une sorte de boîtier sur lequel on appuie et les femmes vont être directement mises en relation avec le commissariat ou la gendarmerie d'à côté. Il y a également les ordonnances de protection qui sont prises par le juge aux affaires familiales et qui peuvent être prises avant même que l'affaire soit jugée. Et bientôt, donc, les bracelets électroniques pour lesquels vous avez longtemps milité. La question, c'est est-ce que c'est suffisant ou est-ce que tous ces moyens ne sont pas utilisés justement à 100%? C'est-à-dire que certaines associations disent on a un arsenal qui est efficace, mais il y a trop peu d'ordonnances de protection qui sont prises, il y a trop peu de téléphones grand danger qui sont distribués. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque?
Ces outils, ils existent, hein, téléphone grave danger, ordonnances de protection, etc. Vous avez raison dans le sens où il y a encore, comme on dit, une marge de développement hein, sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut que là aussi, l'ensemble des maillons de la chaîne se mobilisent. L'ordonnance de protection, c'est essentiellement l'avocat de la victime qui va saisir le juge d'affaires familiales. Il y a une procédure à mettre en place. Hein. On constate qu'il faut que ça monte petit à petit en puissance, que c'est peut-être pas suffisamment encore utilisé. Là aussi, il faut que l'information aussi soit mieux donnée hein, par les associations d'aide aux victimes aussi, qui doivent travailler au plus proche des victimes pour leur donner cette information. Et que l'on mette en place, voilà, comme on l'a fait à Pontoise, là aussi, tout le monde autour de la table pour travailler sur comment on améliore les ordonnances de protection. Hein, on a signé des protocoles pour que les informations, notamment qui viennent des plaintes qui ont été déposées à la police, et puis des éléments médico-légaux, arrivent directement chez le juge d'affaires familiales, parce que nous, on a donné des instructions pour qu'elles arrivent directement, pour essayer de faciliter. Et on voit que quand on travaille comme ça tous ensemble, et avec le barreau aussi, les avocats, pour leur dire saisissez plus le JAF, il y a des éléments qui facilitent la prise d'ordonnance de protection, on s'aperçoit qu'on fait améliorer les choses et que notre nombre d'ordonnances de protection augmente. Ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, il faut encore travailler. Le téléphone grave danger, c'est pareil. On s'aperçoit qu'on a un nombre important de téléphones grave danger sur le Val d'Oise, on a plus de 25. On est petit à petit monté en puissance parce que ce dispositif n'était pas assez connu, pas assez demandé, pas assez sollicité, pas assez activé. Et donc, petit à petit, ça avance, mais on n'est pas encore au taquet des possibilités, comme vous l'avez dit. Mais je crois qu'il faut là aussi que tout le monde se mobilise pour sensibiliser, informer et travailler pour faciliter la mise à disposition de ces outils de protection.
Est-ce que vous pouvez juste me préciser comment fonctionne une ordonnance de protection, tout simplement ?
Une ordonnance de protection, ça donne un certain nombre d'interdictions aux conjoints violents. C'est essentiellement dans le cadre du conjoint violent. Interdiction de rencontrer la victime, interdiction de se rapprocher, etc. Un certain nombre d'obligations. Et le manquement à ces obligations entraîne la possibilité d'une condamnation pénale.
La justice me fait pas marrer, ça dure des plombes, le type remue à peine les doigts de pied, à quoi ça ressemble, je vous le demande.
Je reviens sur la question de tout à l'heure du dépôt de plainte. On a dit donc un tiers, dans le cadre des féminicides, un tiers des femmes donc, qui sont mortes sous les coups de leur conjoint avaient porté plainte. Deux tiers, non. Est-ce que ça traduit, selon vous, un manque de confiance dans les rouages, dans l'appareil judiciaire, ou tout simplement sur le fait que elles se disent à quoi ça sert? Et dans le reportage, on ne parle pas de féminicide, mais on sent qu'il y a une hésitation à déposer plainte parce que finalement, on risque de détruire la vie de son conjoint violent parce que ça va apparaître dans son casier judiciaire, ça peut ruiner ses chances de carrière, etc.
C'est très courant, en fait. C'est ça qui est assez déroutant. On n'a pas une population de victimes homogènes avec
des femmes qui ont d'un coup une angoisse absolue de recroiser leur mari violent. Au contraire, on a beaucoup de femmes qui, même prises en charge par des associations, qui justement donnent leur avis sur les ordonnances de protection et les procédures d'éloignement des maris violents, beaucoup de femmes qui disent « Est-ce que vous pouvez signer le rapport pour que je puisse continuer à le voir ?» Mmh. Parce que je ne veux pas qu'il aille en prison, je ne veux pas que ça détruise notre couple, cet homme, je l'aime. C'est quand même assez déroutant parfois d'avoir des femmes qui ont été vraiment défigurées et qui reste très attaché à cet homme violent. Donc, on n'a pas toujours l'image assez classique
noir et blanc,
ouais. De la femme qui souhaite se venger de ce qu'on lui a fait et qui ou alors coupe les ponts net et veut plus jamais revoir son mari violent. Ce serait plus simple si c'était comme ça. Mmh. Malheureusement, il y a parfois beaucoup de femmes qui sont tout simplement très amoureuses. Parfois, il y a des enfants au milieu de tout ça. Et sont pas prêtes à couper le lien, quoi. C'est une frustration aussi des associations qui mettent énormément en place pour justement protéger les victimes, réussir à leur trouver un appartement, machin. Et puis au bout de 2-3 semaines, un mois, parfois un peu plus, ces mêmes victimes reviennent voir les personnes qui les ont accompagnées pour leur dire « J'aimerais que vous leviez l'interdiction de mise en relation parce que j'aimerais revoir mon mari, quoi. »
Là aussi, on revient sur ce qu'on a dit au début, hein, les fondamentaux, les relations femme-homme, homme-femme. Hein. Il faut voir qu'on a aussi des questions de relations économiques, hein, qui travaillent pas, qui amènent l'argent, ou se loger, parce qu'on dit il faut trouver une place d'hébergement pour la femme victime, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle quitte son domicile, c'est bien, c'est son univers, et puis qu'elle aille dans un foyer, enfin, vous vous rendez compte de ce que ça, à quoi ça correspond. Donc tout ça est compliqué quand même, donc là on est dans le plus profond de l'intimité de ce couple, c'est ça qui rend les choses parfois difficiles, comme le disait Mathieu, hein, c'est qu'on a aussi des relations basées sur, au départ, des relations sentimentales, mais qui peuvent aussi être des relations de domination, quelque part. Et on revient sur cette question d'égalité femme-homme. Et on a des situations où on a une soumission administrative parce que voilà, c'est l'homme qui s'est occupé toujours de tout. Donc la femme dit « mais comment je vais m'en sortir toute seule ?» Des relations économiques, c'est l'homme qui travaille ou qui ramène l'argent. Donc comment je vais m'en sortir ? Il y a les enfants. La question qui est toujours récurrente, est-ce qu'on peut être un bon père si on est un mauvais mari ? Enfin voilà, tout ça doit se poser dans la réflexion. Mais là, on n'est plus tellement dans la réflexion juridique, on est dans la réflexion un peu
sociétale.
De l'intimité et sociétale. Hein.
Alors le plan, c'est quoi ?
Ma mission est de te protéger.
Il y a la question qui a été soulevée par Adèle Haenel dans son témoignage il y a très peu de temps, quand elle dit « la justice ne nous fait pas confiance, on n'a pas confiance en la justice ». C'est pas représentatif de toutes les victimes, mais bon, moi j'en ai rencontré par exemple. Mmh. J'en ai rencontré une jeune femme qui a vécu l'enfer pendant 4 ans avec des menaces de mort, des viols conjugaux, quelque chose d'extrêmement grave, et qui n'a jamais souhaité porter plainte. Parce que elle a peur de justement cet appareil judiciaire qui pourrait la broyer et finalement ne pas la reconnaître comme victime. Parce que encore une fois, on a peur de pas être capable de prouver ce qu'on avance. Parce que il y a pas de témoin, ça se passe dans l'intimité d'une chambre à coucher ou d'un appartement qui est fermé. Donc parfois il y a aussi des choses aussi bêtes que ça qui font que des jeunes femmes victimes et qui se disent victimes, qui se reconnaissent comme victimes, ne sont pas prêtes à franchir le pas de la plainte et du procès.
Oui, mais je crois que là-dessus, c'est un peu compliqué de dire « j'ai pas confiance en la justice parce que la justice a pas confiance en nous ». Alors, dans ces cas-là, le règlement de ces affaires-là se fait où ? Voilà. Là, il y a un vrai sujet. Hein, à quoi sert la justice ? Est-ce qu'on est dans un état de droit ou pas dans un état de droit ? Est-ce que le tribunal est le tribunal médiatique ou émotionnel, ou est-ce que c'est le tribunal judiciaire de la société qui règle avec des règles écrites et des systèmes judiciaires cadrés? Bien entendu, c'est pas simple parce que la justice, c'est pas obligatoirement toujours très rapide, parce que elle a besoin de preuves, parce qu'on a besoin de contradictoires. C'est des principes généraux du droit qui fondent un état de droit, hein. Le contradictoire, c'est-à-dire que chacun doit opposer ses arguments. La preuve, pour condamner, on condamne pas sans preuve, effectivement. Les preuves peuvent être variables, elles ne sont pas seulement les preuves physiques, hein. Il peut aussi y avoir des preuves par la répétition d'une plainte ou par un certain nombre d'éléments, c'est beaucoup plus large que ça, mais toujours est-il que ça s'inscrit quand même dans un processus judiciaire qui peut effectivement effrayer peut-être certains qui n'ont pas connaissance du fonctionnement de ce système ou qui à un moment donné ont été confrontés à un dysfonctionnement du système aussi. Mmh. Donc je crois qu'il est important de communiquer là-dessus, de travailler sur cette communication et cette facilitation du fonctionnement du système judiciaire. Après, on est sur quelque chose aussi où il faut savoir qu'on a des procédures qui sont longues. Oui, c'est certain. Mais parce qu'on est aussi dans un système judiciaire qui est insuffisamment calibré en France, hein, actuellement. C'est un exemple que je donne régulièrement. Au niveau du Conseil de l'Europe, des 47 pays qui font partie du Conseil de l'Europe, il y a eu une étude qui a été faite sur le nombre de magistrats du parquet, donc procureurs, pour 100 000 habitants. La moyenne dans les 47 pays, là-dedans il y a la Slovénie, la Lituanie, tous les pays, 47 pays, la moyenne de procureurs pour 100 000 habitants, c'est 13. En France, on est à 4. Okay. Voilà. Pour 100 000 habitants. La moyenne, c'est 13. Mmh. Hein. Donc, il y en a qui sont bien au-dessus. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont en dessous, puisque la moyenne, c'est 13. Nous, on a 4. On est en partenariat pontoise avec le tribunal de Düsseldorf. Ils ont la même activité, à peu près le même volume de population, 1,2 million d'habitants, à peu près le même volume de plaintes à traiter. À Pontoise, moi, j'ai 30 magistrats au parquet de Pontoise. À Düsseldorf, ils sont 3 fois plus, ils sont 85. Voilà. C'est tout, c'est un exemple. Il faut dire aussi que peut-être notre système judiciaire devrait peut-être être renforcé. Moi, je le dis, pour être plus rapide, plus efficace, être plus à l'écoute et avoir peut-être plus de moyens à mettre aussi en face de ces problématiques sociétales et judiciaires que sont, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, mais entre autres, et là, aujourd'hui, on en parle parce que c'est une priorité, les violences faites aux femmes.
Très bien. On a évoqué tout à l'heure, on a utilisé le terme de déni, c'est-à-dire le déni de la violence et les hommes qui disaient qu'on les avait poussés à bout en quelque sorte. Mais une fois qu'ils sont passés par la justice, que potentiellement ils ont été reconnus coupables, qu'ils ont fait une peine de prison ou qu'ils ont passé des stages, est-ce qu'ils acceptent en quelque sorte la justice? Est-ce qu'ils acceptent la peine qui leur a été infligée?
C'est très difficile, ça dépend de leur capacité à comprendre leur culpabilité. Vous pouvez accepter votre peine quand vous considérez que, d'une certaine manière, vous avez été jugé tel que vous deviez l'être, c'est-à-dire coupable. Donc, vous vous sentez vous-même comme ayant fait quelque chose de répréhensible, de grave, vous en voulez. Les hommes que j'ai rencontrés, très peu sont dans ce cas-là. À vrai dire, 2 sur 12, on dit « je suis coupable, je suis là pour une bonne raison et je sais qu'il faut que je change et pour changer... » Alors après, ils n'ont pas toujours les bons réflexes. Il y en a qui dit « pour changer, il faut que j'arrête de boire parce que c'est l'alcool à chaque fois qui me fait taper ma femme. » Bon, là aussi, on peut se dire que c'est peut-être pas forcément la vraie raison. Peut-être que frapper sa femme, c'est un symptôme d'un mal-être qui, au même titre que l'alcool, et que ces deux choses-là se superposent. Mais dans l'immense majorité, moi, des hommes que j'ai rencontrés, le problème, il est même bien avant de pouvoir se soigner ou de changer d'attitude, c'est d'être capable de prendre conscience de son problème.
Prendre du recul.
De la même manière que quelqu'un, vous pouvez lui dire « Mec, j'ai l'impression que tu bois un peu trop, il faudrait que tu ralentisses. » Si pendant des mois, il vous dit « Mais pas du tout, je bois pas plus que toi. Bon, bah... » il ne pourra jamais actionner le levier qui fait qu'on va vers un changement. Et là, c'est un peu la même chose. C'est qu'on voit des hommes qui, quand on leur dit « mais vous êtes bien ici pour une bonne raison », « ah mais non, mais pas du tout, c'est ma femme qui devrait être là à ma place. Elle, on ne lui a pas posé toutes ces questions, c'est moi qui dois me faire chier à venir ici tous les vendredis, machin. » Et avec ce genre de discours-là, on ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a pas déjà une prise de conscience personnelle.
Justement, pour parer à la récidive et pour que la plainte soit intelligible, est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie et d'explication de ce qu'est la plainte et de ce qu'elle recouvre?
Non, mais bien sûr, la pédagogie, on évoquait les stages de sensibilisation aux phénomènes de violence, c'est de la pédagogie. Hein. On est allé même plus loin dans le Val d'Oise, puisque pour nous, la question des violences faites aux femmes, c'est un sujet global. Alors, par exemple, on a mis en place, là, il y a quelques mois, un stage pour les consommateurs d'actes sexuels, c'est-à-dire les clients de prostituées, parce qu'on considère que la prostitution, c'est aussi une violence faite aux femmes. Donc on a une politique globale qui a vocation aussi à faire de la pédagogie hein, sur ce sujet. Et on s'aperçoit que donc là, les consommateurs d'actes sexuels sont convoqués là aussi à des stages où ils rencontrent justement des prostituées qui viennent expliquer en quoi c'est violent le monde de la prostitution pour essayer de faire de la pédagogie. Attention, vous êtes dans un rapport homme-femme qui est un rapport dysfonctionnant. Ouais. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il faut travailler sur l'ensemble de ce panorama. On l'a expliqué tout à l'heure, la pédagogie, ça commence tout petit.
Dans l'hypothèse où cette émission n'a pas plombé votre journée, je ne peux que vous conseiller la série « Des hommes violents » de Mathieu Palin. Même si j'ai eu du mal à digérer certains passages, je n'ai fait qu'une bouchée des 3 premiers épisodes. L'intégralité du reportage sera disponible en ligne sur le site de France Culture et tous les réseaux le 21 novembre. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas y jeter une oreille. Éric Corbeau, merci beaucoup de vous être prêté au jeu du podcast malgré la surreprésentation des journalistes autour de cette table. Je rappelle que vous êtes procureur de la République de Pontoise.
Merci, j'ai survécu.
Je boucle la boucle avec mon acolyte du jour, Caroline Politi, journaliste du service police-justice de 20 minutes. Merci encore, Caroline.
Merci.
Twitter, Insta, Facebook, Tinder, quel que soit le réseau, je compte sur vous pour faire la promo de Juste un droit. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode consacré, si je ne dis pas de bêtises, aux avocats commis d'office. À la prochaine et que justice soit faite.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.